Beaucoup de sujets de bien-être féminin sont encore tabous ou minorés. On n'évoque finalement pas, ou peu, notre fonctionnement cyclique et son impact sur notre qualité de vie, notre équilibre hormonal, le syndrome prémenstruel ou encore la périménopause. Et comme on n'en parle pas, on n'en sait pas grand-chose. Alors, nous avons décidé de partir à la rencontre de femmes de tout âge, avec des expériences très différentes, et de leur donner la parole sur leur rapport au corps et à leur cycle, ce que nous avons à cœur de nommer l'écologie corporelle féminine. Nous sommes Caroline et Anna, fondatrices de Millier. Vous écoutez un épisode de notre podcast Woman Body Ecology.
Écoute, je suis ravie de te recevoir parce que pour moi, tu es vraiment la spécialiste des perturbateurs endocriniens et de la clean beauty. Donc, on va réessayer de réexpliquer rapidement ton parcours et pourquoi tu t'es intéressée en particulier à la cosmétique.
Alors, très vite, hein. Je suis donc la co-créatrice de l'appli Clean Beauty, qui a été la première appli de décryptage des cosmétiques à avoir été lancée en France en 2017. Et aujourd'hui, donc, de Beautylytics, qui est une plateforme SaaS, donc autrement dit un logiciel dans le cloud B2B, développé pour l'industrie, pour l'aider à piloter sa transformation sur tous les enjeux conso RSE au travers d'analyses pointu hein, des portefeuilles produits finalement au développement des KPI qui permettent après de piloter la transformation.
Bah écoute, bravo déjà pour je pense cette nouvelle application qui transforme en profondeur en fait les réflexes industriels par rapport aux listes des ingrédients cosmétiques. Alors comment es-tu venue aux cosmétiques et à analyser justement les toxiques dans nos produits du quotidien?
Ben les hasards de la vie, je suis entrepreneuse depuis une quinzaine d'années et mon fils aîné a été diagnostiqué trouble cognitif très très sévère parce qu'il est suivi en CHU depuis qu'il a 5 ans, quand il avait justement 5 ans, donc avec une suspicion d'exposition aux perturbateurs endocriniens dans mon cas, puisqu'en fait on n'a pas du tout d'antécédents familiaux. Et mon chemin d'entrepreneuse a croisé le chemin de l'une de mes associées qui est scientifique et docteur en pharmacie industrielle et qui, elle, était déjà très très engagée dans la R&D de produits ultra clean, donc qui soient vraiment garantis sans aucun ingrédient controversé pour la santé. Donc, c'est vraiment, en fait, la rencontre de notre histoire, hein, la mienne personnelle et la sienne scientifique. Qui a donné naissance à toute cette aventure.
Et alors, dans les ingrédients controversés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses. Souvent, les gens font des confusions. Donc, il y a vraiment, on va dire, les ingrédients qui ont un impact écologique négatif. Il y a les ingrédients qui ont un impact sur les allergies, plus ou moins forts, les fameux allergènes. Et puis, il y a ces fameux perturbateurs endocriniens dont on parle de plus en plus, mais qui sont sur une zone un peu plus floue parce qu'il est difficile d'identifier justement un effet de seuil. Et que finalement, ce sont les ingrédients dont on maîtrise moins bien les effets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment
Donc en fait, si on schématise très vite, en effet, il y a dans les ingrédients controversés pour la santé, il y a les ingrédients qui vont développer une réaction cutanée. Donc là, ça se voit tout de suite. Et puis, il y a les ingrédients qui, pour moi, sont beaucoup plus problématiques, qui en fait contribuent à notre exposition chimique à bas bruit et sur des années. Une catégorie de produits ne suffit pas à développer ni le moindre cancer, ni la moindre toxicité. C'est vraiment le fait qu'on soit exposé et qu'on vive dans une soupe chimique permanente qui pose question. Et les cosmétiques contribuent à cette soupe. Et au sein de ces ingrédients toxiques pour la santé, donc cette exposition chimique à bas bruit dont je parle, il y a en effet les perturbateurs endocriniens suspectés, car la plupart d'entre eux sont suspectés de l'être. Avec une problématique particulière. Ils s'affranchissent d'après les études aujourd'hui qui sont d'ores et déjà parues des lois habituelles de la chimie. Dans leur cas, la dose ne fait pas le poison. Ils seraient nocifs à très faible dose. Donc ça, c'est un premier point extrêmement problématique dans l'évaluation de la sécurité des ingrédients, mais l'Europe est en train justement de revoir complètement le paradigme d'évaluation. Il y a un changement de paradigme très fort. Les ingrédients présents dans les cosmétiques et à cause des perturbateurs endocriniens, cette évaluation va être entièrement revue pour prendre en compte le danger intrinsèque de l'ingrédient et non plus le risque, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ces ingrédients s'affranchissent des lois de la chimie et leur autre caractéristique, c'est les effets cocktails auxquels ils contribuent, puisqu'en fait, ils sont capables de se rencontrer entre eux pour démultiplier les effets. Une étude de l'INSERM, alors, non pas sur des perturbateurs endocriniens suspectés présents en cosmétique, mais a démontré dans une étude, je crois, de 2015, qu'on pouvait aller sur des ratios de 1 plus 1 égale 50. Donc, on est vraiment sur un type de molécule très, très particulier. Et ils sont clairement aujourd'hui considérés comme l'une des principales menaces sur la santé au XXIe siècle. Alors, je sais bien qu'on est en ère Covid, donc on est un peu focus sur le Covid, mais les perturbateurs endocriniens, c'est un énorme sujet.
Surtout qu'il y a effectivement, quand on regarde un petit peu sur le côté hormonal notamment, il y a quand même des évolutions très très fortes qui se sont faites en l'espace de quelques générations à peine. Hein. Quand on voit, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais que ce soit... Ah oui, tu parlais des troubles cognitifs.
Oui, je crois que les endocrinos
en perdent leur latin.
Non, sont très mobilisés sur le sujet. On en arrive à des gynécos qui recommandent à leurs patients de ne pas utiliser de cosmétiques pendant la grossesse. Non pas que le cosmétique serait responsable seul de ce qui pourrait se passer, mais que en apportant sa part, il va y contribuer. Alors, il y a cette idée, bien sûr, que il y a des moments de la vie qui sont plus problématiques que d'autres. Et donc, la grossesse en fait partie. L'adolescence aussi, je crois que c'est un moment de la vie, la grossesse, où les futures mamans doivent faire extrêmement attention à toute leur consommation d'une manière générale, parce que ils se cachent absolument partout. Donc, on a les moyens de les débusquer dans les cosmétiques. Faisons-le, je pense, quand on attend un bébé, je pense que ça vaut la peine de le faire.
Oui, et puis particulièrement, c'est vrai que parfois on ne le sait pas quand on va faire le tri, mais sur les produits non rincés, plus ça reste en contact longtemps avec la peau aussi, plus c'est important. Et c'est vrai que même dans les cabinets de pédiatres, on commence à entendre parler avec toutes les vagues de puberté précoce aussi chez les jeunes filles et autres, on commence à entendre de plus en plus parler de faire le ménage de certaines choses, quoi.
Oui, les pubertés précoces... il y a une explosion, je pense, dans les.
C'est une des rares choses qu'on arrive à mesurer.
Voilà, dans les. Il faut savoir que, en effet, une exposition pendant la vie fœtale sera irréversible et ne se traduira que plusieurs années après. Mm. D'où finalement la très grande difficulté aujourd'hui à caractériser l'impact véritablement de ces perturbateurs endocriniens et d'avoir, comme c'est le cas dans l'évaluation des ingrédients chimiques, notamment en Europe, une idée très tranchée. On peut avoir des données qui vont générer des doutes, mais je pense que sur ce sujet précis des perturbateurs endocriniens, bon, c'est mon point de vue, hein, le principe de précaution doit prévaloir.
Donc, en gros, la responsabilité des industriels de dire comme on ne peut pas le 1 plus 1 égale 50, comme tu l'as dit.
Non, alors sur certaines molécules.
Je vais pas expliquer
qu'en cosmétique, c'est pas ça. Hein, le sujet est très complexe. Hein, c'est pas une crème,
bien
c'est
sûr.
Pas
mais
tu vas générer un problème.
Par le doute, si tu disais, si on a des guidelines qui sont d'ailleurs difficiles à respecter dans tous les cas, parce que c'est compliqué la formulation, s'il faut le redire, mais il vaut mieux de se pencher sur une liste d'ingrédients qu'on va s'interdire, hein, c'est-à-dire être vraiment dans cette logique-là, plutôt que de se dire j'en mets une petite dose. C'est quand même la logique d'adopter les industriels.
Voilà, là, le sujet de la dose, je pense, c'est nul et non advenu sur la question des perturbateurs endocriniens, parce que ça, on l'entend souvent, on n'a pas pris en compte la dose,
notamment
dans les applis. Bon, là, pour le coup, je vois mal comment on peut le défendre sur la problématique des perturbateurs endocriniens. Alors, moi, je pense que la responsabilité, pour le coup, de l'industrie est véritablement de travailler sur en effet le principe de précaution, à tout le moins sur les produits qui sont utilisés par les futures mamans, ou alors d'avoir des recommandations spécifiques. Cette liste, elle existe. Plusieurs pays européens se sont mobilisés. Bon, la France est très mobilisée hein, dans ce combat contre les perturbateurs endocriniens. Donc, on sortit un site web, donc là, le nom m'échappe, mais on pourra le remettre en lien éventuellement, avec la liste des perturbateurs endocriniens qui sont aujourd'hui suspectés, les ingrédients qui sont suspectés de l'être.
Qui est très
engagée sur le sujet. Et je crois vraiment que cette question de la perturbation endocrinienne doit vraiment être traitée avec... pour le coup, responsabilité. Mais une fois de plus, le règlement, le Green Deal européen, qui est donc cette politique qui est mise en place et qui a été votée par l'Europe pour un futur, alors je ne sais plus exactement quelle est la terminologie, mais bon, pour un futur sain et green, et voilà, la chimie occupe une place prépondérante puisque l'Union européenne a l'ambition de supprimer toutes les molécules qui seraient problématiques pour la santé et l'environnement, tout en affichant des pourcentages de molécules qui aujourd'hui seraient problématiques, je crois que de l'ordre de 80%, donc et elles sont très peu caractérisées. Il est bien évident que dans l'idée qu'aujourd'hui on évoluerait la sécurité des ingrédients chimiques à l'aune de leur danger intrinsèque et non plus du risque, derrière, c'est la question des perturbateurs endocriniens, qui, je pense, a poussé à cette réflexion-là. Les carnets de santé aujourd'hui en France recommandent aux jeunes parents de ne pas utiliser de cosmétiques pour les enfants dans les premiers mois de la vie de l'enfant. Là aussi, il y a le spectre des perturbateurs endocriniens derrière ça. Ça montre bien qu'il y a une problématique qu'on ne sait pas vraiment résoudre, y compris en termes réglementaires. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le ministère de la Santé juge bon de recommander aux jeunes parents de ce genre de choses tout en n'agissant pas plus fortement, bon, parce qu'il y a l'Europe au-dessus, mais on voit qu'on est dans quelque chose de très nébuleux et qui va demander aussi de la part des industriels une certaine, pour moi, dose de responsabilité. Et ça, c'est
déjà,
là, c'est mon point de vue.
Ça a commencé un petit peu avec REACH, c'est-à-dire qu'on a eu une période où on a eu énormément de nouvelles molécules chimiques qui sont rentrées sur le marché. On était un peu une période de la chimie dans les années 80 qui a explosé et où les industriels n'avaient pas forcément la responsabilité de ce qu'ils mettaient sur le marché. Là, on est un tout petit peu en train de faire machine arrière en se disant, il faut peut-être aussi essayer d'analyser plus en détail.
Les cosmétiques ont toujours été très réglementés.
Tout à fait.
En raison du drame qui s'est produit dans les années 70 avec ce qu'on a appelé le scandale. Parce que c'est un scandale, c'était plutôt un drame, du talcum orange. Puisqu'en fait, 36 bébés sont morts, et je crois une centaine ont été sortis avec des séquelles très, très, très graves dues à un problème de fabrication de talc. Donc en fait, les proportions ont été inversées. Et c'est comme ça, en fait, que s'est fondée, dans un premier temps, la réglementation française, puis le règlement cosmétique européen qu'on connaît, nous, en Europe, et qui est certainement le règlement cosmétique le plus sévère au monde. Ça, c'est indéniable, mais ça montre bien que cette chimie, elle n'est pas anodine et que on est face potentiellement à des produits qui doivent être très encadrés. Mais on a cette chance, en tout cas quand même en Europe, que les cosmétiques soient le produit de biens de consommation le plus encadré. C'est indéniable. Mais aujourd'hui, le règlement cosmétique ne sait pas véritablement résoudre la problématique des perturbateurs endocriniens. Ça c'est sûr.
Oui, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais il y en a même dans l'alimentaire, des perturbateurs.
Ah oui, en fait, ils sont présents partout. Une étude qui est parue, je crois, la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, montre qu'on en trouve aussi dans les emballages des restos, type McDo. Ouais. Vous savez, ces emballages de hamburgers avec cette surface
plastique.
Voilà, un peu plastiqué, et que donc, il y a des migrations. Donc là, on parle aujourd'hui de la formule, mais même au niveau des cosmétiques. Donc, je ne l'ai pas dit, mais nous, on a commencé par une marque et on a eu plusieurs coups de fil quand nous étions encore une marque, de clientes qui téléphonaient à la demande de leurs oncologues avec une liste précise de packaging, de matériaux de packaging. Que les oncologues ne voulaient pas. Ouais. Preuve que eux suspectaient une migration. Donc bien évidemment, c'était certainement des cancers hormonodépendants et certainement de molécules suspectées d'être perturbateurs endocriniens. Donc il y aura demain, de toute façon, un autre gros sujet qui est aussi l'emballage, non plus d'un point de vue pollution environnementale, mais aussi qu'est-ce qui se passe en termes de migration, notamment au niveau des plastiques.
Il faut le voir vraiment dans son ensemble. Tu vois, là, récemment, j'ai appris que notamment les traitements orthodontiques, donc tu parles de la cible de l'adolescence, elles sont à cette période, toutes les colles et les résines pour les appareils sont bourrées de perturbateurs endocriniens. Alors, ça reste dans la bouche pendant un an, deux ans. Donc, il faudra voir le problème de manière générale pour pouvoir l'évacuer, malheureusement.
Voilà, comme tu dis. C'est pour ça que ces molécules vont être, au niveau de l'Europe, évaluées sur leur danger pour que leur interdiction sera prononcée. C'est ça l'idée. Si vous êtes classé, comme c'est le cas aujourd'hui pour ce qu'on appelle les CMR, donc les ingrédients qui sont cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques en cosmétique, dès lors que vous êtes CMR, théoriquement,
on
n'a plus le droit de les utiliser en cosmétique. Bon, l'industrie peut demander des dérogations, et malheureusement, elle le fait. Mais théoriquement, on ne peut pas utiliser. Eh bien, demain, on va s'acheminer, dans un premier temps, pour les perturbateurs endocriniens, ça c'est sûr, sur ce type de classification et d'interdiction. En fait. C'est-à-dire que dès lors que l'ingrédient sera reconnu perturbateur endocrinien, bon, y aura plus de questions à se poser. Il sera théoriquement interdit. Bon, je pense que après, l'industrie aura la possibilité de déposer un dossier comme elle l'a aujourd'hui sur les CMR pour montrer que l'ingrédient ou que le produit est essentiel. Bon, mais comment est-ce qu'on évaluera après cette notion essentielle en cosmétique? C'est un autre sujet. Mais voilà, on voit bien que...
On pourra plus plaider la bonne foi.
Voilà,
en tout cas, on
voit bien...
une blacklist.
Ah, mais de toute façon, le Green Deal, là, d'ores et déjà, demande que l'évaluation des ingrédients commence à se faire sur cette base-là.
Ouais.
Donc, elle appelle à un certain niveau, je pense, de responsabilité de l'industrie d'ores et déjà.
Mais c'est très bien. C'est la responsabilité des marques aussi de
Ah oui, moi je pense que les marques, en tout cas, sur les produits, dès lors qu'on bosse sur une cible jeune, je pense qu'on doit faire preuve de cette responsabilité et d'essayer de les supprimer ou de le limiter, mais au maximum. Au maximum.
Et ces perturbateurs, donc on a vu qu'ils étaient partout.
Ouais.
L'air qu'on respire, des microplastiques dans la neige.
Oui,
on
les pesticides. Il y a eu le scandale du téflon.
Tout à fait.
Voilà, je recommande à tout le monde de regarder Dark Waters. Comme ça, après, on est content et on est ravis du monde dans lequel on vit. Mais ouais, c'est la réalité.
Non, mais il vaut mieux être lucide et savoir au moins.
Oui, mais après, si tu veux, les perturbateurs endocriniens, c'est un enjeu qui est fondamental.
On ne peut pas y échapper.
Voilà, je ne veux pas après qu'on nous accuse de faire du marketing de la peur. Voilà, ce n'est pas l'idée. Il y a quand même des vrais combats à mener. Je pense que celui-là en est un.
La cosmétique.
Oui, dans la cosmétique, parce que la cosmétique est un maillon d'une chaîne chimique qui est beaucoup plus vaste. Moi, mon combat, il concerne toute la chaîne chimique. C'est-à-dire, c'est pas les cosmétiques tout seuls qui vont résoudre la problématique.
Si tu pouvais nous donner deux, trois petites choses qui peuvent nous aider à faire le ménage ou le tri, alors on ne peut pas y échapper complètement, on est d'accord, mais juste des petits réflexes qui peuvent aider à y échapper un peu plus, notamment pour nos ados, les femmes enceintes.
Ah bah moi, pour les cosmétiques, là pour le coup, comme on a la chance d'avoir les ingrédients sur les packaging et donc qu'on a accès à cette information produit. Là, pour le coup, c'est quand même d'utiliser les applis. Là, elles sont toutes bien documentées sur les perturbateurs endocriniens. Et je pense que là, sur cette thématique-là, on pense qu'on veut des applis.
Ouais.
Mais je pense que pour les identifier, c'est ce qu'il y a de plus efficace, notamment quand on attend un bébé.
Il y a peut-être deux, trois produits à éviter quand on attend un bébé. Faut bien
adolescent. Oui, après... Ouais. Problématique aussi des huiles essentielles parce qu'elles peuvent avoir aussi des caractéristiques qui sont problématiques en termes de toxicité au-delà de leur aspect allergène. Mais tout ça, on est un peu dans la même idée. Mais sur les cosmétiques, je ne peux que recommander pour le coup sur cette problématique des perturbateurs endocriniens d'utiliser une appli. Le problème, c'est que pour un très grand nombre de produits, on n'a pas accès à la liste. Les produits ménagers, par exemple... alors, faut le savoir, la liste n'est pas présente sur les packaging. En revanche, alors ça, je l'ai ignoré pendant longtemps, les fabricants ont l'obligation, théoriquement, de la mettre sur les sites web. Donc, il y a un moyen de se procurer cette liste. Bon, les molécules étant les mêmes, après, on peut l'identifier grâce aux applis.
Pour les produits ménagers, etc.
Mais sinon, il existe un site web... dont on vous fournira l'adresse en lien, qui a été créé à l'initiative de plusieurs pays européens, dont la France, et qui déjà propose une liste de tous les perturbateurs endocriniens suspectés. Je pense que c'est bien aussi pour l'élargir à d'autres types de produits qui ne bénéficient pas finalement d'avoir les ingrédients dispo et donc d'avoir éventuellement des applis de décryptage.
Et puis peut-être les produits les plus simples. On disait par exemple en ménager, on revient beaucoup au vinaigre ménager plus simple, on revient à des choses, mais
Alors là, je suis plus partagée ouais. parce qu'en fait, la nature étant elle-même pourvoyeuse de poison, il y a des ingrédients naturels qui sont suspectés.
On parlait des huiles essentielles.
Ouais, qui sont suspectés qui sont d'être perturbateurs endocriniens. Ouais. Donc je.
Et c'est bien le parallèle que
ils
tu as
sont
fait.
Dans la liste, mais. Il y a aujourd'hui des ingrédients naturels qui vont rentrer dans ce scope-là. Et
c'est très important ce que tu dis parce qu'on confond souvent le naturel et on essaie de faire la part des choses et le non naturel, le chimique et le perturbateur endocrinien. Et c'est très bien de rebondir là-dessus parce que c'est pas du tout vrai. Et parlons justement du cas des huiles essentielles, par exemple. On a tendance à mettre beaucoup ça dans les clean.
Plus globalement, hein, le soja est un perturbateur endocrinien
sûr,
avéré.
Sûr,
donc oui, alors. Je suis la créatrice de Clean Beauty, donc souvent on veut absolument me mettre dans une case et penser que je vais être le chantre de la naturalité. Bien évidemment que l'industrie cosmétique est une industrie d'origine pétrochimique qui doit se transformer et donc aller vers plus de naturalité, c'est d'une certaine manière le sens de l'histoire. Ça pose deux limites, celle des ressources. Peut-on véritablement aller exploiter aujourd'hui il n'y a pas la ressource pour basculer de la cosmétique sur les ingrédients 100% naturels ça me semble évident. Et puis le deuxième, la nature est pourvoyeuse de poison,
bien sûr.
Alors chaque fois que je dis ça dans une conférence ou quand je parle, on a l'air étonné que ça sorte de ma bouche, mais non, c'est la réalité. On est très objectif, on est à la base une équipe de scientifiques. De toute l'équipe, je suis la seule qui ne le soit pas. Donc je porte la voix de mon équipe ici.
Ne pas confondre naturalité et perturbation.
Mais pas du tout. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les consommateurs sont en attente de produits plus sains, voire très sains, et que souvent, dans leur esprit, la nature, c'est quelque chose de très sain. Eh ben non, pas toujours. Et de toute façon, je pense que l'avenir, et même globalement de la chimie, c'est en effet, bon, c'est cette fameuse chimie verte qui serait vertueuse à la fois pour l'environnement et pour la santé. Mais c'est avant tout un équilibre.
Ça me semble. Tu parlais des problématiques de ressources. Moi, j'aime beaucoup la chimie verte. C'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Effectivement, il y a aussi quelque chose. Tu parlais des ressources. Si demain, on voulait tout passer en cosmétique bio, ça ne serait pas possible d'un point de vue d'utilisation des ressources.
Ah, mais je pense que c'est même pas en cosmétique bio, même en cosmétique naturelle.
Donc,
déjà, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait gérer l'alimentaire. Il faut bien voir que les surfaces cultivables, aujourd'hui, soit on les augmente encore, et là, on voit, je pense, la problématique de déforestation, ces surfaces cultivables, elles ont un rôle global, y compris en alimentaire. Donc,
Et puis, ça ferait des débats éthiques entre le privilégié de l'alimentaire, la cosmétique les plus valorisées.
Enfin, on voit bien que là, il n'y aurait même pas de débat. C'est pas envisageable. Ouais. Donc, le sourcing aujourd'hui de manière naturelle doit se faire de la manière la plus responsable.
Oui, puis la chimie verte, c'est des choses hyper intéressantes sur des cultures en aéroponie qui permettent d'utiliser très peu de la fleur. Donc, c'est presque quelque chose qui, en fait, s'auto-régénère sans utiliser beaucoup. Sur des extraits concentrés. Donc, je pense
que l'avenir est clairement là. De toute façon, moi, je suis pas du tout, là aussi, parfois, ça surprend. Je suis vraiment convaincue que nous n'y arriverons que grâce à la science. Je suis parfaitement consciente des limites de la croissance. Mais je pense aussi que toute cette problématique de durabilité, de réchauffement climatique est un problème de gouvernance mondiale. Sur beaucoup de sujets, ça nous échappe. Donc, chacun, bien évidemment, doit faire sa part et voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est à la fois une politique forte en termes internationaux qui nous fera, et donc des décisions communes qui nous feront avancer, notamment sur les énergies, parce que la problématique est liée aussi à l'énergie. Et sur les sujets qui nous occupent, je pense que la science a un rôle à jouer énorme, tant dans les packagings que dans la chimie de la formulation, même si sur le packaging, on est aussi sur de la chimie, puisqu'on utilise des matières chimiques.
Mais c'est ne plus voir, en fait, un bout de la lorgnette. C'est voir vraiment dans son ensemble et que la loi aide à faire ça, c'est-à-dire à prendre du recul sur l'impact à chaque niveau, en fait.
Je pense que d'une manière générale, faut en effet avoir une vue globale et une vue d'ensemble, sinon, on est dans la réponse marketing.
Exactement.
Mais c'est compliqué. C'est très compliqué.
C'est compliqué de formuler en naturel, mais c'est à faire et c'est pour préserver, les générations futures, l'avenir, les ressources. Ce sera peut-être le mot de la fin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais, euh, Mais je pense que c'est vraiment ça, que ce que dit ce fameux Green Deal, c'est-à-dire de responsabiliser tout le monde à son niveau, donc de l'amont, du sourcing, opaque, dans toutes les industries, pour essayer de ne plus se justifier par des doses minimum.
Très concrètement, l'industrie va être de plus en plus contrainte. Aujourd'hui, la pression qui s'exerce sur les industries d'une manière générale, liée au réchauffement climatique et tout ce qui va avec, et je mets l'exposition chimique dedans, elle va être, la pression financière, notamment des investisseurs, va se renforcer considérablement, la pression économique, la pression réglementaire, on le voit en Europe avec avec ce Green Deal qui se met en place. Et puis la pression sociétale devient énorme. On l'a vu dans les cosmétiques, avec dans un premier temps une pression très forte sur la santé. Le Covid a aussi contribué à augmenter. Alors bizarrement, c'est un problème sanitaire, mais je pense que tout le monde a bien compris que l'environnement était lié, et la préoccupation environnementale est en train également de grandir. Et donc la pression sociétale est très très forte.
Mais c'est bien, parce que c'est une évolution de bon sens.
C'est une bonne chose. Tout à fait d'accord.
Donc que des bonnes nouvelles.
Tout à fait.
Un grand merci, Candice.
Merci, Caroline.
Au revoir.